Mais sans doute, la plupart du temps, on n'en fait rien.
Oui.
Mais...
Bah oui, on n'en a jamais rien fait, d'ailleurs.
On a fait un livre.
On a fait un livre, mais... on les...
Oui, oui. Ouais, non, non, mais ce que je veux dire, au niveau du soin. Au niveau du soin.
Ce qu'elles nous transmettent bien, c'est qu'à un moment donné, psychiquement, bon, ben voilà, elles ont des représentations quand même qui sont quand même pas... voilà, c'est très, très sympathique quand même, qui les traversent, qui sont douces et tranquilles. On comprend bien. Donc à un moment donné, ça nous donne quand même une, on va dire, une note quand même de l'état psychique dans lequel elles peuvent se contenir à ce moment-là. Elle n'a pas fait, cette dame, des poèmes de ce type chaque séance. Donc voilà.
Ça vous donne quand même quelques...
Bah, ça nous donne un signe de comment elle peut être, et que c'est une vigilance à avoir sur son état. Mais après, je ne vais pas aller la rattraper pour lui dire, dites donc, vous avez peur d'avoir froid aux pieds. Non, mais c'est qui va pas bien, vous voyez, donc,
pourquoi vous pensez à un âne qui mord?
Bien sûr que non. Ça fait partie de ce qu'il habite. À un moment donné, elle le retranscrit comme ça vient. C'est son art, moi je le défends comme ça. C'est ce qui est venu. Voilà. Mais à un moment donné, et ben, qu'est-ce qu'elle va en faire et qu'est-ce que ça vient réactiver et qu'est-ce que ça vient appuyer? C'est aussi notre affaire de veiller sur la personne. C'est une garantie, voilà. Mais ça n'est jamais arrivé. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de... Voilà.
Est-ce que, pour ne pas se contenter du fait qu'elle l'ait dit, tout simplement, si vous parlez...
Mais on s'en contente.
Du lien avec le soin. Moi, j'ai eu comme écho, enfin, l'écriture automatique, hein, pratiquement. André Breton, ça part comme ça.
Oui, c'est
réaliste,
effectivement.
Voilà, oui. J'ai l'impression que, le fait que ça sorte comme ça, ça les libère ou ça les soulage. Enfin, j'ai le sentiment.
Il y a ça au milieu de plein d'autres choses, il y a ça, c'est sûr.
C'est très automatique, hein, je veux dire, elles nous attendent et nous on écrit. Il y a peu de personnes qui ne savent pas en fait. Elles ont tout le temps quelque chose à en dire, c'est tout. Nous on fait juste là, voilà. Oui, passeur pour l'outil, la main, les mots, l'orthographe, mais c'est pas. Voilà.
Moi j'ai le sentiment, oui. Je me permets, ça parle beaucoup, vraiment, tout ce que vous dites. Mon sujet, je vous l'ai dit, c'était les personnes sous protection, les majeurs sous protection. Donc, qu'est-ce qu'on en faisait? Quelle est la mission, par exemple, des mandataires judiciaires, donc les gens qui travaillent, qui ne sont pas des tuteurs familiaux. Et la consigne qu'on a donnée dans une loi qui date de 2007, c'est rendre l'autonomie à la personne. Rendre l'autonomie à la personne. Et là, je trouve quand même que vous donnez... Parce qu'il y a aussi un autre mot, une autre phrase qui me fait écho. C'est une personne qui disait, personne qu'on met sous protection, on rentre dans son intimité, on rentre dans ses comptes, c'est la disparition de la personne. Et je trouve que... Ben ça, c'est des vrais mots.
Oui, mais je n'avais jamais envisagé ça sous cet angle-là, mais c'est parti.
Vous rendez une autonomie, une notion d'autonomie que ne savent pas toujours répondre les mandataires judiciaires. C'est pas facile d'être... faire, tu vois. Et là, vous rendez une sorte d'autonomie, et les personnes existent, elles renaissent quelque part, ou elles naissent.
Et
je trouve que ça, par rapport à la disparition de la personne, moi, ça me touche beaucoup, vraiment, tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Je peux me permettre, vous ne pouvez pas ne pas être transformé, ça transforme les personnes, mais vous ne pouvez pas, vous, ne pas être transformé. Ça me paraît évident. Ça transforme autant celui qui écoute que celui qui dit, si je m'amuse.
C'est sûr.
Peut-être que vous pouvez en parler de ça, d'ailleurs.
Mais le... Peut-être si je peux me permettre, parce que du coup, tu avais une question tout à l'heure sur le fait que on a dit qu'on n'avait pas publié ce livre. Effectivement, il n'est pas trouvable en librairie et tout ça. Et tu demandais pourquoi. Ça a à voir avec cette question des tuteurs et des choses comme ça. En fait, on a posé, nous, sur ce livre-là, donc il était important de le faire, on a posé un cadre qui disait vous faites tout ce que vous voulez et vous mettez tous les textes que vous voulez et ce livre vous appartient, donc y compris des textes, ça pouvait ou ça peut être des textes très très personnels. Il y en a qui font vraiment appel à des choses assez intimes ou de souffrance affective ou affective ou sexuelle ou quoi. Donc c'était déjà, ça pouvait être délicat de le mettre entre les mains. Et sur ce livre, en fait, tout était relu par des... validé par une institution, par des tuteurs, par des choses comme ça, pour vérifier et que les droits de la personne étaient respectés. Et que les droits de la personne et de son entourage, c'est-à-dire que chaque nom qui était notifié, c'est-à-dire que chaque photo, que chaque... Et en fait, ça aurait pu être... Il y a des trucs qui auraient pu ne pas passer. Il y a des... Sur... Avec un ouvrage qui est en circulation, enfin, en vente en librairie, circulation tout public. Un des exemples, c'est une des dames qui, par principe, refuse de se faire prendre en photo. Et donc ça, son tuteur le sait. Et elle a signé un papier avec lui, qui, je crois, qui dit que
tout à fait.
Voilà. Ouais. Là, sur le, en discutant avec elle, on a, elle a dit bon, ok, d'accord. Donc on a fait le, elle a fait les ateliers d'autoportrait, elle a, une photo qui est super. Et puis quand on a fait la photo de groupe, bah du coup elle était plus trop sûre. Donc elle a dit bah finalement non. Non, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait mon image dans le livre. Et donc on a fait une photo de groupe sans elle, on a rediscuté, fallait on a reparlé de tout ça. Finalement, elle était d'accord pour qu'il y ait la son image de l'autoportrait mais plus du mais toujours pas dans la photo de groupe. Ça a pris, je sais pas, 2 mois, 3 mois ou je sais pas combien de temps, enfin de discussion pour y revenir. Le choix, il s'est fait et finalement, elle était contente de son choix, mais ça s'est mis, ça s'est fait de manière très très longue. Si c'était passé sur à l'extérieur par le tuteur en fait, le choix était fait en 5 minutes. Il disait, mais non, en fait, il y aura pas de photo de cette dame parce que elle, elle l'a dit à chaque fois et elle a signé le papier qui dit jamais de photo de moi. Et donc voilà. Et du coup. Nous, je pense, ça aurait été compliqué en fait de proposer un cadre de liberté totale aux dames et de revenir derrière après en disant ah, mais alors en fait ce que vous avez décidé, on va pas pouvoir le faire parce qu'il y a votre tuteur qui l'a pas fait. Donc en faisant ce livre là exactement de la manière dont elle le voulait, mais en ne le proposant pas au grand public, du coup ça simplifiait les, on restait intègre par rapport au à ce qu'on avait proposé, au cadre qu'on avait donné, et voilà, et ça, enfin ça, on restait honnête avec les dames et ce livre-là, elles l'ont eu quand même, ce qui était le plus important pour elles, c'est-à-dire elles l'avaient pour le donner, elles ont des exemplaires pour le distribuer à leur entourage, à leur famille au sein de l'institution, à tout leur entourage proche, ont pu avoir ce livre quand même.
Vous êtes comporté en homme de parole.
Ouais, on a essayé. Moi, tout le temps simple avec l'institution, vous savez bien. Mais oui, on a. Enfin, en tout cas, l'idée, c'était ça.
Le respect de la parole donnée.
Ouais. Autant que possible, ouais.
Le temps avance, on va.
C'est l'heure,
mais pas trop loin de la fin.
Les personnes, elles ont signé un papier. Ouais.
D'autres
ouais.
Réactions.
Ah ouais, s'il y a d'autres.
Des personnes qui ont pas.
Moi, j'ai une réaction, peut-être une question un peu délicate, je sais pas. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que. En fait, quand tu relisais les poèmes, parfois, c'était le reflet direct de leur turbulence intérieure. Du coup, ça pouvait porter une certaine vigilance après sur l'état de la personne. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut porter un regard thérapeutique, c'est-à-dire d'analyse thérapeutique, sur un regard poétique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque un petit peu de pathologiser la création? Voilà. Est-ce que c'est sur le même plan? Est-ce qu'on peut transposer effectivement cette parole poétique sur un plan d'analyse thérapeutique? Moi, je me pose vraiment la question. Enfin, est-ce que c'est.
Moi, je pense que ça.
Il y a une sorte d'oscillation. À la fois, il n'y a pas de volonté de soin, puis à la fois, il y a un souci de soin.
Je pense pas.
C'est la même nature, en fait, ce jaillissement en fait, de cette parole poétique avec, après. L'analyse qu'on peut en faire beaucoup plus psychiatrique.
Parce que j'ai pas l'impression que ce soit ça, c'est-à-dire qu'on trouve pas une pathologie par rapport à la lecture des poèmes. Il peut y avoir des indices en fait, c'est-à-dire sur le cas d'une des dames, on savait que dès que, enfin, il y avait des périodes où les poèmes qu'elles écrivaient devenaient vraiment noirs, vraiment sombres, avec des trucs de... avec des images, avec du sang, avec des trucs, avec du, avec des, des trucs vraiment durs. Et là, en l'occurrence, Sophie était là, bon, ben, ça, elle re-rentre dans un cycle, de, là, pour le coup, un cycle pathologique, mais c'est pas le poème qui donnait l'indication de cet état. C'est-à-dire, c'est pas le...
Ça s'entremêle un peu, quand même.
Ça s'entremêle un peu, mais c'est des trucs, s'il n'y avait pas eu le poème, de toute façon, tout l'établissement et tout les... Le personnel soignant l'aurait vu immédiatement, puisque c'est pas des trucs qui sont cachés ou et que c'est un indice parmi d'autres d'un état d'une personne.
On n'a pas d'analyse à en faire parce qu'on n'est pas des psys. On prend ce qu'elle dépose et la bienveillance qu'on a, c'est qu'on l'a toute la journée, la semaine d'après, qu'il y ait écriture ou pas écriture, c'est tout.
C'est tout à fait
dans le comportement, le verbal, le tout. C'est notre souci un peu de, c'est notre profession quand même.
C'est donc c'est l'attention et à la fragilité accompagner voilà. Véronique au printemps des poètes quand son,
oui,
quand
ça.
Son poème est lu par toi et c'est un gros moment de douleur, enfin c'est, ça semble douloureux, en tout cas c'est énormément d'émotions de par le fait simplement d'être entendu par une assemblée, d'être reconnue dans cette authenticité, parce que c'est vraiment ce qu'elle délivre, hein, c'est elle, c'est cru, c'est vrai. Et c'est plus ça qu'il faut, c'est ce regard-là dans cette fragilité, et puis cette attention à cette vulnérabilité.
Parce que...
Elle est restée écouter Jean-Baptiste pour son poème, et c'était impossible de rester. Et là, on arrive
en retard. C'est dur de s'entendre.
On a écouté, et il fallait vraiment partir, c'était énorme pour elle. C'est pas une thérapie, c'est juste que... Waouh.
Et puis de voir la poésie comme ça, ça lui enlevait sa liberté aussi, en fait. Du coup, toute la liberté qu'on a justement dans l'écriture et dans le... C'est pour ça que je pense pas, en fait. C'est pas un outil... Enfin, dans ce thérapeutique thème, mais ça a des faits dans le fait qu'on puisse sortir de soi, enfin, une forme de décharge. Oui, mais après l'analyser sous forme thérapeutique, ça va même prendre
le sens
de la poésie, quoi, en fait.
Encore une fois, oui, là, c'était... Enfin, le je sais pas...
Moi, je vais rien dire, mais...
Thérapeutique
avec les enfants.
Aux enfants.
Moi, je voulais pas être femme de parole, mais là, j'ai une femme de parole. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Bah, merci beaucoup.
On se reverra.
Merci, ouais.
J'irai composer la poésie également avec vous. À la prochaine.
Juste un partage d'expérience sur les frontières entre qu'est-ce qui relève du soin, qu'est-ce qui n'est pas du soin, et des frontières hyper très très floues, parce que donc, moi je suis médecin, addictologue, et rôle et fonctions et diplômes et compétences qui s'exercent dans un cadre précis. Et donc là, cette année, donc, je fais une formation qui n'a rien à voir, qui n'est plus Lyon 1, sciences dures, mais Lyon 2, séparation des sciences humaines, sciences du langage, du musicien, intervenant spécialisé. Donc des mondes, a priori, qui sont très différents, en tout cas dans ce qu'elle mobilise comme compétence pour appréhender les gens et le regard qu'on porte sur les symptômes, enfin la production qui est faite de ce qu'on propose, qui intervient dans la relation. Et on a beaucoup, parce que c'est important l'identité professionnelle, et qu'est-ce que les objectifs, et qu'est-ce qu'on propose, et quelles conséquences, et qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, de cette posture de musicienne, du coup, qui est un peu nouvelle, de musicienne intervenante, donc on développe des projets artistiques qui peuvent être à partir de la musique, du théâtre, de la danse, du geste, une fois qu'on a mesuré que le geste vocal, le geste dansé, tout le mouvement peut devenir utilisé comme support à la relation. Et il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui relève d'une médiation artistique, l'art thérapie c'est quoi. C'est beaucoup des disciplines, enfin des domaines très méconnus avec des frontières hyper floues. Et du coup, la posture en tant qu'artiste, enfin moi j'ai du mal en tant que, la posture en tant qu'artiste dans le cadre d'une institution avec un développement d'un projet artistique, elle est vraiment en collaboration avec l'équipe soignante, enfin de mon expérience et de mais on ne fait pas partie directement de l'équipe thérapeutique. Et sur les conséquences, l'hôpital est un lieu de culture, enfin, il y a beaucoup, et l'art a une place dans l'institution et dans les soins, et du coup, c'est autre chose, quoi, qui ne vient pas annuler, ni contrebalancer, ni... C'est autre chose qui peut avoir des effets, évidemment. Enfin, de toute façon, je pense que tout le monde, tous qui sommes là et qui interviennent non à l'hôpital, de quelconque, d'une quelle que soit la place en fait qu'on ait, on attend, on est là parce qu'on a envie de faire quelque chose de chouette. Enfin, qu'il se passe quelque chose et que les choses bougent un petit peu et pour les gens. Et du coup, les conséquences, en tant que artistes dans le cadre d'un projet professionnel, bah, justement, elles ne nous appartiennent pas. Après, par contre, oui, on mesure... du coup, on n'a pas tout ce qui se produit, on en est conscient dans ce qu'on propose, dans ce qu'on utilise, dans les réflexions qu'on peut avoir avant avec toutes les équipes sur tel ou tel projet, est-ce que c'est pertinent, mais encore que, finalement, les choses, c'est dans le processus, c'est dans la démarche, et dans le fait de faire, c'est déjà énorme. J'imagine toutes ces femmes dans l'institution qui sont dans le silence, 80 ans, enfin... la place de la parole et qui arrive à faire des trucs qu'elle doit avoir envie de continuer, c'est clair.
Après, je pensais à un parallèle peut-être qui est approprié, mais tout bête, quand elles écrivaient des choses très sombres, très noires, ça n'est pas pathologisé que d'être à l'écoute. Moi, je reçois le courrier, une lettre d'une amie qui va très très mal, très triste, dont les propos sont sombres. Je vais aussi me dire waouh, elle traverse un moment sombre. Enfin, c'est pas forcément pathologisé que d'être à l'écoute, de recevoir des choses sombres qui vont, sombres ou violentes ou plein de choses, hein, et de s'en soucier, enfin, tout simplement de.
Mais ça va être de la même intensité de ce qu'elle voit. Du monde qui les entoure, hein, et de la beauté de ce qu'elles voient, parce qu'elles n'ont pas, j'allais dire, elles ne sont pas parasitées comme on peut l'être. Donc du coup, je ne sais pas, mais dans les poèmes, quand Florence, elle dit au théâtre, c'est vrai, mais en fait, on fait semblant, mais c'est vrai.
On a travaillé.
C'est parce qu'elles ont des représentations de ce qui les entoure, qui sont moins... parasité, je trouve, par nos perceptions, en fait, par nos représentations. C'est la beauté des mots qu'on regarde aussi, c'est ça. Mais on va pas se fixer sur un poème qui est plus sombre, mais on va se fixer sur mais comment elles ont fait pour aller chercher ces mots-là et arriver à authentifier leur pensée, en fait. Mais comme je le ferais pour n'importe quelle personne. Mais il y a quand même des... voilà, il y a quand même des personnes qui arrivent à trouver des trucs incroyables. Mais c'est pas parce qu'elles sont en situation de handicap. C'est parce qu'on s'est posé 2 minutes toutes à côté d'elles. Mais ça se passe dans n'importe quel atelier. Au contraire, on n'est pas là, je trouve, pour dire « Alors, attention, c'est un atelier de personnes en situation de handicap. Attention, ça, c'est incroyable. Hein. » Non, c'est vraiment parce que il y a eu effectivement une rencontre avec des personnes, 10 différentes, leur histoire... une humeur, une ambiance, une confiance. Et puis voilà, c'est une histoire, hein, tout ça. Une vraie rencontre, voilà.
C'est peut-être le mot pathologisé qui nous induit en erreur, parce qu'en fait, moi, j'ai pas entendu. Je vais pas parler évidemment à ta place, mais j'ai pas compris la question de cette manière-là. Je pense qu'il y a un moment. Moi, j'ai beaucoup fréquenté l'hôpital du Lunetier à un moment donné. Il y avait un atelier de d'art-thérapie. Il y avait un type qui faisait de la peinture, dont j'ai oublié le nom, il est assez connu. Et ensuite, il a exposé, je dirais, dans les galeries lyonnaises. Et ses peintures sont devenues relativement chères. Donc, il pouvait vendre ses peintures alors qu'il touchait la hache, 1000 ou 2000 euros par peinture. L'hôpital du Lunetier lui a fait un procès parce que les cadres des peintures avaient été payés par Lunetier. Donc, ce que je. Ben oui, parce qu'il y avait quand même. Et donc, alors, il n'y a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, et en même temps, il y a un rapport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est une personne qui n'est pas dans une institution, On peut effectivement exercer son expression, sa liberté, qui peut faire prendre des risques, c'est ça que j'entendais, dont on est le seul responsable. Et quand on est, si vous voulez, dans une institution, même si j'entends bien que vous dégagez une oxygène, un espace d'expression et une authenticité, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, il y a une responsabilité institutionnelle qui fait que il y a une certaine forme de vigilance à avoir, parce que les familles, l'institution, les tutelles, à un moment donné, peuvent vous demander de rendre des comptes s'il y a quelque chose qui fait qu'à la sortie... des droits d'auteur. Enfin, il faut quand même qu'on envisage, pas ici, hein, parce que ici on est dans la poésie, on va peut-être pas parler de choses dures, mais j'entends bien la question de cette manière-là. C'est-à-dire, et donc, c'est pas la question simplement de l'art et le soin. C'est plutôt, je pense qu'il n'y a même pas une question à se poser sur l'art et le soin. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est tellement noué que le prendre soin, on n'a pas à le dénouer. C'est plutôt la question de l'art et ce soin qui est noué, il a lieu encore dans un espace qui est institutionnel, qui demande à rendre des comptes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et c'est ça le problème, à mon avis, auquel les personnes sont confrontées, notamment les professionnels aujourd'hui. S'il y a beaucoup de professionnels qui n'y vont pas et qui auront envie d'y aller, c'est parce qu'ils prennent des risques par rapport à une institution qui demande des comptes, moi il me semble. Je sais pas si... C'est peut-être pas quelque chose que vous avez rencontré, mais... Parce qu'apparemment, vous avez une institution qui vous porte.
Qui soutient, je pense, la parole des personnes et ce genre de projet.
C'est pas le cas partout.
Pas le cas
vous aussi, non, aussi.
Non, il y a
d'autres. C'est voilà, ça. Après, c'est peut-être
pas le cas. Il y a des dispositifs institutionnels, des réseaux qui sont en place. C'est les 20 ans de culture et santé. Juste, il y a des dispositifs institutionnels culture et santé, par exemple, dont c'est les 20 ans et c'est neuf, quoi. L'idée de justement formaliser la protection juridique, enfin, la possibilité sans, avec le support de l'institution pour pouvoir amener des projets artistiques de différentes natures, d'ailleurs, poésie
et ça. Ça marche.
Et après, c'est sûr que c'est pas légion et que dans une institution, dès qu'on prend un risque, qu'il soit clinique, enfin, et qu'on procède, enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, il y a en tout cas...
Parce que par ailleurs, moi, je bosse avec un autre groupe de personnes handicapées dans une autre institution qui passe par ce dispositif, culture et santé, la DRAC. Et ça se passe pas aussi bien, quoi. Et c'est-à-dire qu'on sent bien qu'au niveau de la direction de l'établissement, c'est bien que, bon, il y a des gens d'extérieur qui leur ont proposé ce projet-là et en plus qui finançaient tout et l'établissement est... Mais que voilà, ils font les machins et puis après ils vont passer à autre chose et ça.
Je suis pas une défenseuse.
Mais je veux dire, c'est effectivement la question du soutien de l'institution et des choses comme ça, et de l'inscription dans le temps et des choses comme ça. Et que suivant dans cet autre, ils ont fait le choix, ils ont dit bon, bah, de toute façon, c'est du corps abîmé, donc on va tout mettre sur le sport. Donc il y a du sport. Et effectivement, quand tu arrives en disant atelier d'écriture, atelier artistique, pratique artistique, tout ça, machin.
Il y a beaucoup de choses qui relèvent de la culture, de l'établissement.
Oui, c'est des. Et puis des personnalités.
Résistantes à l'idée qu'il y a de l'art.
Des personnalités, des personnes qui sont aux commandes. et des choses comme ça. Mais effectivement, là-dessus, il y a des. Après,
il y a l'IA qui
parle. Ah oui, pardon.
Oui, non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Enfin, oui, il y a, je pense que tu as saisi une des dimensions de ma question, mais il y a aussi une autre dimension qui est peut-être celle de la distinction entre l'auteur avec un grand A et l'auteur avec un petit A, c'est-à-dire l'auteur en tant que personne, avec son histoire et ça, c'est une question qui a beaucoup été débattue en littérature justement, et l'auteur qui est en train d'écrire dans son jaillissement immédiat, spontané, artistique, créatif, etc. Et voilà, et pour moi ça posait juste cette question là aussi de la confusion entre l'auteur avec un grand A, auteur avec un petit A. Voilà, c'était aussi juste pour ajouter cette précision là on pourrait donner lieu à d'autres débats, mais...
Okay. J'adore quand tout le monde est en silence.
Ouais, ouais,
c'est bon, c'est gagné, merci. Le plaisir,
c'est qu'on n'est pas là.
La question,
c'est qu'on est un lieu d'hébergement. Je pense que ça, ça fait beaucoup peut-être dans la manière dont on accueille ce projet et d'autres. Hein, parce que, ok, avec Jean-Baptiste, on a fait de la poésie, mais avec d'autres, on a fait du tango. Enfin voilà, on est quand même. Parce qu'on est un lieu de vie. Donc, c'est la personne, c'est le lieu où les personnes habitent. On n'est pas dans quelque chose de soin. Donc ça, je pense que ça change beaucoup la manière d'appréhender l'institution et comment on accueille ces projets-là. Voilà.
Ça nous éclaire parce qu'on ne savait pas quoi.
Ouais. On est un habitat, ouais. Voilà, c'est où ils habitent. Mmh. Voilà, c'est comme si on accueillit.
Effectivement,
c'est vraiment un lieu de poésie. Mais on n'est pas un lieu de soin. Je pense que c'est là aussi qu'on a d'autres expériences dont vous parlez. Et on n'a pas la même manière donc, d'appréhender quand on fait venir
la poésie. Je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on se dise au revoir. Enfin, en tout cas, qu'on arrête le. Mais comment conclure d'habitude, on fait un tour de table. Là, c'est un peu nombreux.
Ouais.
Peut-être
tu pourrais peut-être dire un mot de fin.
On prend toutes les questions de départ. Qu'est-ce que la poésie?
En fait, si c'est possible, j'aimerais bien ne pas conclure. Bon.
Personnellement, moi, je peux donner une phrase que j'ai trouvée dans l'interview où tu dis l'imagination est un muscle qui se travaille comme n'importe quel autre. Et je trouvais ça super beau parce que je pense que c'est l'imagination, c'est se décaler, c'est donner d'autres perspectives au monde et que cet exercice-là, ben, on peut l'entraîner. Et non seulement ça, peut-être ça permet de mieux révéler le monde, mais aussi ça permet de créer le monde aussi, et un monde poétique et un monde agréable à vivre, quoi. Et
là, en tout cas, la vertu de ces ateliers, c'est qu'ils ont eu lieu sur la distance et que c'est ça qui a permis aux dames de bouger, parce que il ne serait pas passé ça sur même avec des ateliers plus intensifs sur un an, il ne se serait pas passé la même chose. Et que là, c'est vraiment la longueur et la longueur et la lenteur qui ont fait je sais pas quoi, mais qui l'ont fait.
Fait pousser les êtres.
Tu vois, tu l'as fait là. Quoi.
Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup d'être venu. Je vous donne juste les deux prochaines dates des soirées d'Ethnocafé. Le lundi 17 février, on recevra Yanis Gancel, qui est anthropologue et psychiatre dans le quartier, et qui a écrit un bouquin sur les adolescents difficiles. Donc il viendra nous présenter son livre. Et le mercredi 11 mars, ce sera la soirée de la République de l'Ethnocafé, où on accueillera Camille Delès, qui est médecin généraliste à Santé Commune. C'est un centre de santé communautaire où l'idée, c'est de travailler sur l'implication des usagers du centre. Et Benoît Héroux, qui est sociologue et maître de conférence à Lyon 2, qui a travaillé sur la question des personnes vulnérables. Et voilà, ce sera le thème de la soirée. Voilà, merci encore. Vous pouvez faire une participation à la soirée dans la chaussette.
C'est la chaussette.
Et ben, merci beaucoup. La porte reste ouverte, mais
Merci.